Ben, bonjour et traditionnellement, même si ça fait un mois qu'on s'est dit pareil, c'est le premier conseil de l'année, donc tous nos voeux pour ce prochain conseil, sachant que l'année prochaine, nous serons dans nos quasiment derniers. On n'entend pas?
Non, on n'entend pas.
Faut que, je vous dis, faut que vous fassiez un truc comme les oreilles que j'ai eues là. C'est bien, ce truc-là, il marche
Là, oui.
jamais. Là, ça va. Faut que je parle comme ça, là. Plus haut? Là, ça va là? Allez, mais il faut que je sois un peu comme ça. Allez, donc on attaque l'ordre de l'appel. Donc Frédéric Arnoul, Gérard Bartoli, Lisiane Beltrando, Procuration Yvelines, Daniel Buzelli, Raoul Carta, Pascal Cour, Jean-Louis Galibert, Fabienne Gruninger,
Oui.
Christine Hugues, Loïc Kervajean, Jean-Christophe Laurent. Qui va partir parce qu'il est attendu dans 5 minutes, donc il y aura procuration à Raoul Carta. Mais pour le moment, il est présent, donc je le compte présent et on aura une procure de plus et un élu de moins. Gérard Lettigue, procuration à Fred. Marc Lieuzen, procuration à Loïc. Évelyne Loubet, Thierry Mazel, procuration à Catherine. Clément Moineau, Francis Nardi, Claudette Pagès, procuration à Christine Hugues. Michel Perronnet, procuration à moi. Brigitte Prem présente. Georges Rayon, procuration. Patrick Reboul. Gisèle Renaud-Brémond présente. Patrick Reboul présent. Agnès Rondeau présente. Marc Royer présent. Catherine Ruiz et moi. Donc, au moment où je parle, avant que Jean-Christophe s'en aille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a le quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le compte est bon. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procures. Et dans 10 minutes, il y aura 19 présents et 8 procures. Allez! Premier point à l'ordre du jour, donc le secrétaire de séance, Monsieur Raoul Carta. La précédente séance du Conseil vous amène-t-elle dans son compte rendu des observations? Pas d'observation, on considère qu'il est approuvé. Allez, on attaque par le débat d'orientation budgétaire. Alors, vous l'avez reçu. Je l'ai là. Il est où mon daube? Là. On en parle depuis plusieurs budgets. Je vous en donne les principales. Donc, alors, je ne vous fais pas les commentaires obligatoires que vous avez lus sur la situation régionale, nationale, mondiale. Hein, ça fait partie des règles. Je pense que vous m'en dispensez. Vous les avez lus et sûrement parfaitement apprises. Nous avons donc. Comme tous les ans, une dotation, la DGF, qui est encore en baisse. On rappelle là qu'en 2017, on était à 94 000 euros. Je pourrais rajouter qu'en 2008, on était à 600 000 euros et que nous sommes à 42 000 euros pour 2018. Donc, théoriquement, 2019 ne devrait pas avoir de mouvement. Mais, alors, si j'ai bien compris ce qu'a raconté le président, il n'y a pas de. Il n'y a pas de baisse dans le montant global de la dotation au niveau national, mais les règles, enfin, parmi les 42 ou 43 règles qui définissent les conditions, le nombre d'habitants, l'interco, je vous donne pas c'est les meilleurs, il peut y avoir des communes qui ont moins et des communes qui ont plus. Mais la masse globale nationale n'est pas baissée. Enfin, on pourrait. Donc, je pense qu'on ne devrait pas être beaucoup bougé puisque nos paramètres, on a plutôt un peu plus d'habitants, puisqu'on passe pour 2019 à 4 980 habitants et on passera pour 2020 à 5 050 à la louche, 118. Voilà. Donc, comme on a des critères qui augmentent, on devrait avoir quelques centimes de plus, quelques euros de plus, mais ça ira pas loin. On a notre pénalité à 160 000 euros, on avait 140 000 euros l'année d'avant. J'espère qu'avec la mise en route des logements sociaux, l'année prochaine, on aura un peu moins. Et puis donc, dans les orientations budgétaires, On vous propose pour le budget de cette année, puisqu'il faut voter les taux avant, ce qu'on fera lors du budget, de maintenir la taxe d'habitation et de baisser du montant de l'inflation le foncier. Oui, le foncier bâti, on ne le touche pas, et la taxe d'habitation, et donc en liaison le foncier non bâti, de le baisser du montant de l'inflation, c'est-à-dire de 2%, ce qui fait qu'on passera de 4,59 à 4,51, et de 15,62 à 15,34, et qu'on restera à 23 pour le foncier bâti. Cela nous amenant à peu près une recette de l'ordre de 2,6 millions. Sur ces 2,6 millions, il y a 1,5 million qui viennent de Clé Sud. C'est pour ça que lorsque vous regardez, si vous regardez internaute.com commune, vous verrez que la commune a son taux, en disant qu'on a beaucoup imposé, qu'on a multiplié par 3 les impôts par habitant, parce qu'ils prennent le même nombre d'habitants et les 1,5 million qui ont été rajoutés, ils les répartissent sur les habitants, alors qu'on baisse les taux. Donc, intégré dans le montant des 2,6 millions, qui a qu'un peu plus d'un million qui est un impôt pour l'habitant grand soi, et qui a 1,5 million qui se revient donc de Clé Sud. On a depuis plusieurs années, et c'est assez important, un budget en équilibre sur le plan du fonctionnement, avec ce qui nous a permis de faire tous nos investissements. Toujours 1 million, un peu plus cette année, c'est 1,6 million, 1,590 million pour être précis, donc de fonctionnement positif, ce qui nous a permis de faire notre autofinancement des 6 millions, c'est ce que j'évoquais vendredi soir. Ça, c'est essentiellement dû, à, malgré les bâtiments en plus et tout ce qui se passe en plus, au fait que l'on fait des économies, les LED, le chauffage avec les changements de chaudière, enfin, divers et variés. Alors, c'est vrai qu'on a des masses d'investissements importantes, mais ça nous crée, ça nous engage sur des dépenses de fonctionnement qui sont plus importantes. Moins importantes. Je ne sais pas où c'est, je le fais dans l'ordre. Les dépenses de personnel, on est à 2%. C'est le minimum, dans la mesure où il y a les échelons, les grades et tout ce qu'on veut. Alors, on n'a pas d'augmentation d'indice, mais bon, il y a toujours des grades, des échelons qui passent. Et également, à partir du 1er janvier, on est passé à 1607 heures. On était à 1580 ou 50, je ne sais plus combien, 44. Ce qui fait que la commune ne sera pas mise à l'index si la Cour des comptes débarque, pour nous dire que, fait ce que vous lisez régulièrement lorsque la Cour des comptes débarque en disant qu'on fait trop de cadeaux au personnel communal et que pour ça, c'est que nos impôts augmentent, ce qui n'est pas le cas. Il y a également, pour pouvoir justifier que les gens travaillent bien 35 heures, on a mis en route une pointeuse qui nous permet de justifier toutes ces dépenses de personnel. Pour la petite histoire, mathématiquement, hein, c'est pas vrai parce que les gens, mais le passage à 1607 heures correspond en temps de travail à 4 agents. Alors c'est pas 4 agents puisque c'est des bouts de chaque service, mais ça fait en heure de travail 4 agents supplémentaires. Les charges à caractère général, 0,98, l'inflation est à 2%. Alors je sais qu'on achète, quoique si, parce que la cuisine, tout ça, on achète un peu de tout. On est à moins de 1%, quand j'évoquais tout à l'heure les économies de fonctionnement, etc. Ben, les dépenses à caractère général, elles font que 0,98, alors que l'inflation était à 2%. Je vous passe sur l'entretien voirie et tout ce qui est fait. Le maintien, la formation des agents, 32 000 euros, toutes les factures qu'on paye, les moustiques, les gardiennages. On a des factures de gardiennage en flèche qu'on intègre, parce que maintenant, toutes les fois qu'on fait une manif, il faut garder, mettre des blocs, etc., etc., avoir des pompiers, donc toute cette partie qui correspond quand même à un transfert de charge des services de l'État, puisque les policiers, pour la fête de l'Avent et la foire, la police nationale ne fait que passer, ne reste plus. Donc on a renforcé les agents. Les dépenses de fonctionnement, donc l'intérêt de la dette, je l'ai dit aussi, bon, mais on est en baisse puisqu'on n'emprunte pas. Donc on a une dette globale qui est à 80 000 euros, ce qui fait moins d'1% du budget en termes de fonctionnement. Son montant étant de 600, 650, je ne sais pas où c'est. Alors je re-redis qu'elle va augmenter l'année prochaine parce qu'on va faire un emprunt d'1,5 million. Donc dans le critère dette, on a 1,5 million d'emprunt, mais qui sera totalement couvert par les loyers de la maison médicale, puisqu'il n'est pas, je dirais, il me semble anormal qu'on prenne d'une partie de notre autofinancement alors qu'on aura des recettes, puisqu'on va louer, qu'on va louer à l'équivalent de l'annuité de cet emprunt. Donc on aura la dette qui va augmenter, mais on aura les recettes en emprunt qui vont également augmenter, comme on a fait pour les garages, où on a fait un petit emprunt et qui est remboursé par la location des garages. Oui, ben ça, je vous l'ai déjà dit, donc les Sud, la taxe foncière, vous avez 300 000 euros de taxe d'habitation. Là aussi, grand débat avec les un tiers cadeau de l'État. Nous avons voté 316 000 euros, on a encaissé 316 000 euros à l'euro près. C'est-à-dire que c'est considéré comme quand il y a des réductions parce qu'il y a deux enfants dans la famille, etc., etc. Donc, on maîtrise l'impôt, on vote le taux. Et après, moi, dans les 316 000, alors, si, quand je dis je ne sais pas, si, puisqu'on a à peu près 52% de grands soi qui bénéficient de cette baisse. Donc, il y a un tiers, c'est-à-dire à peu près 100 000 euros. Sur les 300 000 euros, il y a 200 000 euros payés par les contribuables et 100 000 euros compensés par l'État. Et à la louche. Mais on a, nous, la totalité. Le foncier bâti, 2 millions 3, dont 1 million et demi, je vous l'ai dit, de la plateforme. Et le non bâti, on est à 19 000 euros. On est pratiquement à zéro. On est au cinquième de la moyenne départementale, qui est à 65%. Dans les taxes d'habitation, je vous les donnais tout à l'heure. Donc, on vous propose donc une fiscalité à 4,51 pour la taxe d'habitation. La moyenne départementale est à 13. Le foncier bâti à 23, on ne bouge pas. Et la taxe sur le foncier non bâti, donc je vous l'ai dit, à 15, alors que la moyenne départementale, à 15, 34 pour être précis, est à 65%. Je vous passe sur les taxes sur les pylônes électriques, sur toutes les recettes des services annexes, crèches, 240 000 euros, enfin, les vacances, tout cet aspect-là, vous l'avez lu. Là, le contrat enfance, la dette, je vous l'ai donnée, j'y reviens pas. Le transfert de la dette de la métropole, ils nous ont. Alors, je le dis doucement pour que la presse n'entende pas. Donc, ils nous ont transféré la dette avec le montant de l'annuité d'il y a 3 ans. D'année en année, l'annuité baisse. Mais le montant qu'on nous a transféré ne baisse pas. Donc, résultat, si vous prenez les chiffres, cette année, on gagne encore 12 000 euros. Donc, on a peut-être la dette aussi transférée dans la métropole, mais on en a la recette. Et en plus, d'année en année, la recette est supérieure à ce qu'on paye. Mais bon. Le jour où ils s'en apercevront, on verra. Pour le moment, ils ne s'en sont pas aperçus. Donc ne l'écrivez pas. Si je peux me permettre de vous demander de ne pas trop l'écrire dans le journal. Voilà, merci. Puisque vous voyez que la métropole, l'annuité remboursée sera de 86 000. Elle était de 98 000 l'année dernière. Donc cette année, on gagne 12 000. Voilà, et puis d'année en année. La section de fonctionnement, je vous en ai parlé. Les petits et les grands travaux, on les connaît. Le contrepartie des subventions, ben, on vous a listé les acquisitions groupes électrogènes, je ne vous refais pas la liste. Hein. Les projets financés par le département, Marie-Rose, le cimetière, la chapelle Sainte-Anne, hein, là aussi j'y reviens pas. Donc en conclusion, 2019, qui est la dernière année du mandat, va se solder par l'application stricte de ce qui n'était pas évident en 2014, c'est-à-dire qu'on réalise de gros investissements, on est à plus de 30 millions, payés en autofinancement par à peu près 1 million par an, plus les subventions que l'on a eues, et ça va nous permettre donc pour l'année prochaine, parce qu'on aura toujours un budget positif, de commencer à payer les charges de la nouvelle salle des sports et de tout ce qu'il y a, puisqu'on va mettre en route ces services et nous permettre donc de continuer pour les prédécesseurs d'une manière très institutionnelle qui seront aux affaires en 2020. Voilà ce que je peux vous dire sur le rapport et j'ouvre le débat d'orientation budgétaire traditionnellement, puisque la loi nous y oblige. Voilà. Des prises de parole. Monsieur Patrick Reboul.
Bien, donc on va faire quelques commentaires sur ce rapport. Donc on commencera en disant, comme l'année dernière, parce que ce rapport il ressemble fortement à celui de l'année dernière, donc il est bien réalisé. Pour nous, il est suffisant. Hein. C'est-à-dire qu'on parcourt, donc on parle, vous parlez de tous les points. Donc
si
là, ce soir,
des points plus particuliers.
Oui, on va développer.
À disposition pour.
Tout à fait, oui. Et donc ce soir, on va faire assez court. Donc on va juste faire quelques petites remarques donc sur le document proprement dit, et on terminera plutôt par une série de questions. Alors déjà sur les remarques sur le contenu de ce rapport, on voudrait juste parler à un moment donné dans votre rapport, vous parlez de l'évolution des dépenses de fonctionnement.
Oui.
Alors il n'y a pas de numéro de page. Oui, voilà. Donc dans votre rapport, vous parlez donc de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Vous parlez, il y a un tableau qui présente bien les charges à caractère général, chapitre 011. Vous avez fait ça de l'année 2014 à 2018. Donc ce qui est bien pour nous, hein, c'est que, enfin pour tout le monde, je suppose, c'est qu'à travers ce tableau, on voit que ce chapitre a été, enfin son évolution et que finalement, ben, les services travaillent bien, il a bien été maîtrisé. Le seul petit reproche qu'on peut faire, c'est que, par exemple, les dépenses de personnel, bon, on n'a pas eu le même tableau et on aurait voulu qu'il y ait également ce même tableau sur les 4 ou 5 années. Ça nous aurait permis de visualiser l'évolution de la masse salariale sur les 4 ou 5 ans. Ensuite, autre petite remarque.
Ce tableau aurait fait remarquer qu'en 2016, vous avez une augmentation importante de la masse salariale, qui pourrait dire qu'on a dépensé plus, puisqu'on a les 19 agents qui ont été transférés dans la métropole. Alors on pourrait faire ce tableau, mais il faudrait, pour que ce tableau soit lisible, y mettre les recettes, puisqu'on a 19 agents qui rentrent dans la masse salariale,
oui, bien sûr, oui.
Et qui est payé, cette masse salariale, qui est payée par une dotation
de la métropole
qui paye ses agents. C'est-à-dire que si vous prenez que le chiffre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour les impôts fonciers. Si vous prenez que les impôts fonciers, les grands soins, si vous intégrez les 1,5 million de clés sud, ils payent trois fois soi-disant ce que.
Non, mais,
donc pourquoi pas le faire et on peut vous le fournir, mais il faudrait y intégrer la recette supplémentaire.
Non, mais donc pour venir dans le même sens, je veux dire que le chapitre 011, à un moment donné, effectivement, on a vu que au fil des années, ça a beaucoup évolué, mais il y a eu des explications, parce que je crois qu'à un moment donné, en 2015, le chapitre 011 a beaucoup augmenté, mais je crois que c'est lié au SDIS ou je ne sais pas quoi, ou à quelque chose. Donc il y a des explications.
On avait aussi les
voilà,
recettes.
Donc là, je veux dire, c'est pareil, je veux dire, au chapitre, ça a évolué, quoi, dans les deux sens. Donc voilà, donc juste une petite remarque là-dessus. Ensuite, autre petite remarque.
Vous souhaitez qu'on vous fasse ce tableau pour le personnel, qu'on vous fasse suivre ?
Non, mais bon, on fera des recherches, mais pour les prochaines années, bon, voilà.
Vous prenez les DOM des 4 dernières années, vous aurez
Oui, oui, bien sûr, oui. Autre petite remarque sur l'évolution des recettes de fonctionnement. Oui. Voilà, surtout que dans votre dossier, c'est noté en gras, donc, et vous l'avez dit donc, tout à l'heure. Vous proposez de baisser de 2% la taxe d'habitation. Bon, l'année dernière, on avait fait déjà une remarque, donc on ne va pas recommencer cette année la petite remarque qu'on a pu faire au sujet de cette baisse. Par contre, là, on trouve qu'il y a une phrase qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Donc, vous dites que vous allez baisser la TH de 2% pour améliorer le pouvoir d'achat des grands soins. Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, 52% des grands soins sont dégrévés. Donc, je veux dire, par là, ils ne vont pas avoir d'amélioration du pouvoir d'achat. Donc, on aurait préféré dire qu'une partie, des grands soins vont bénéficier d'une amélioration du pouvoir d'achat. Donc là, ce n'est pas tous les grands soins qui vont bénéficier de cette amélioration, quoi. Oui,
mais comme je ne suis pas censé savoir qui bénéficie de ça,
oui,
nous,
non, mais
on fait vous... pour les grands soins.
Oui, mais vous l'avez dit, donc 52%.
Sur le plan purement comptable, vous avez raison.
Voilà. Donc, bon, voilà, c'est les deux petites remarques qu'on voulait faire sur votre dossier. Après, effectivement, vous avez tout bien expliqué. On vous parlait dans votre dossier de la dette, de l'évolution de la dette. Vous parlez donc des propositions de taxes à l'habitation sur le foncier bâti. Bon, ben là, il n'y a rien à dire. C'est tout bien expliqué dans votre dossier. Et donc, on va plutôt finir maintenant sur une série de questions. On va commencer déjà par une série de questions sur vos investissements. C'est la dernière page. Alors, bon, après, tout ce qu'on voit, la commune finance certains investissements. Donc, on en a déjà parlé. Ça a été voté, je crois, partie pas mal de choses. Mais on a des questions. Par exemple, à un moment donné, on voit qu'il y a l'acquisition de deux groupes électrogènes. Je suppose que c'est pour le service technique qu'ils ont besoin, non, non je
sais. Pour la sécurité, si nous avions, dans le cadre, vous savez que l'on a un plan de sécurité qui a été monté, commencé à être monté par François Pandolfi, qui a été fini par François Garella avec l'aide d'élus. Et nous devons, s'il y avait une inondation, un truc, un machin, de pouvoir avoir une communication et être autonome dans une partie des services de la mairie pour entrer en communication avec la préfecture, avec les gens, avec la police de secours, etc. Et donc, il nous est conseillé, il nous est demandé de pouvoir pallier à des coupures d'électricité, etc., pour que la sécurité du village ne soit pas mise entre eux. Ce sont donc deux surpresseurs, enfin, pas surpresseurs,
comme des
groupes
électrogènes.
Ils sont un basé en mairie, un aux ateliers, pour compenser, pouvoir continuer à sécuriser, à passer des messages. Parce que s'il y a une coupure électrique...
Non, mais bon, il n'y a pas de souci.
Ah,
oui, tout à fait. Ensuite, autre question, ça concerne le changement du chauffage et de l'isolation de la crèche. Bon, alors après, on peut comprendre que le chauffage, à un moment donné, peut-être qu'il est tombé en panne. Mais la crèche, il nous semble qu'elle a été rénovée, restaurée il n'y a pas très longtemps. Et déjà, il faut refaire de l'isolation.
Non, mais on va continuer. Les critères en matière d'économie se continuent. Donc on va continuer à faire de l'amélioration pour, ce que je vous disais tout à l'heure, les LED, le chauffage, etc., pour continuer à moins consommer. Alors, on a la chaudière qui est tombée en panne. On est en train d'étudier, il y a trois possibilités, soit on passe sur d'autres méthodes, ou on répare les compresseurs de celle qui est tombée en panne. On est en pleine, les services techniques sont en pleine discussion là-dessus. On devrait avoir la réponse semaine prochaine, cette semaine même peut-être, et attaquer les réparations. Pour le moment, on compense. Et on en profitera pour compléter encore des isolations pour 8 000 euros. Hein, ça fait 8 000 euros.
D'accord.
C'est vraiment, mais bon. Toutes les fois qu'on peut améliorer, on le fait.
D'accord.
Voilà. Raison de rappeler que 8 000 euros d'isolation sur toute la crèche, c'est vraiment du détail. Hein, mais on améliore toutes les fois. Sur l'état d'esprit que tout ce qui est investi pour économiser en fonctionnement est une bonne chose.
Autre question, c'est, ben, on voudrait parler des travaux de rénovation de la chapelle Sainte-Anne. Il nous semble qu'on l'a rénovée il n'y a pas si longtemps que ça, non ?
Absolument pas.
La
chapelle Sainte-Anne, c'est la partie... Non, c'est ce qu'il y a à côté de l'église où les curés se déshabillent, etc. Là.
Ah, d'accord, c'est pas la chapelle...
Non.
Je confonds, là.
Non.
Et la chapelle, oui, c'est Saint-Georges, d'accord.
C'est Saint-Georges. La chapelle Sainte-Anne...
C'est des saints, mais bon.
La chapelle Sainte-Anne, où il faisait le catéchisme...
D'accord, oui, on y était pas.
A
oui.
Un plateau en bois qui est dangereux, et la sécurité nous a demandé, donc, le service sécurité, quand on passe dans les bâtiments, parce que l'église est un bâtiment municipal... Donc, nous a demandé de le rénover. Du coup, on a fermé la chapelle Sainte-Anne et ils font le catéchisme à Roselle, tant que je me souvienne. Donc, on a demandé un dossier de subvention qu'on a. On a pour 80 000 euros de travaux et on a 47 000 euros de subvention pour réhabiliter et sécuriser la chapelle Sainte-Anne. C'est la partie de l'église.
D'accord. Ben, autant pour nous, c'est notre faute. On a confondu avec Saint-Georges. Donc voilà, donc on a fini les questions concernant vos investissements. Par contre, ce soir, on aimerait parler, on va dire donc nous, des questions diverses, ou plutôt des projets en suspens. Alors pourquoi en suspens? C'est-à-dire c'est des projets qui avaient été annoncés il y a quelques années, même pour certains il y a très longtemps, et on voulait savoir ce soir où ça en était. Alors, bon là, on ne s'est pas trompé. La place Sainte-Anne, La place Sainte-Anne, c'est la place de l'église. Donc il y a très longtemps que c'était prévu. Alors, je ne sais plus s'il fallait l'allier avec le Grand Prestige. À un moment donné, on n'a pas eu ce projet Grand Prestige de faire quelque chose à la place Sainte-Anne jusqu'à à la salle des fêtes, je suppose. Et donc là, je vois que ben, la place Sainte-Anne, elle est ce qu'elle est. Donc il n'y a eu aucune rénovation. Sans parler qu'actuellement, on voit qu'il y a un bâtiment. Alors je vous dis ça parce qu'il y a des gens dans le village qui nous interpellent et nous parlent du bâtiment qui est en construction, qui est en rénovation. Et voilà, donc c'est un tout, quoi. Alors peut-être que c'est lié au fait que la place Sainte-Anne n'a pas été rénovée, je ne sais pas. Voilà, donc ce soir, est-ce qu'on peut savoir pourquoi la place Sainte-Anne n'a pas été rénovée comme c'était prévu il y a très longtemps, etc.
Alors, je vous rappelle que ce que vous évoquez fait partie d'un projet global de centre-ville qui est prévu sur une dizaine d'années, avec, entre autres, la mise... Alors, on a commencé ce programme qui comprend... La première opération qui a été faite, c'est l'avenue Germaine-Richier. La deuxième opération qui est en préparation, c'est la sécurisation de la montée de la glacière. Après, il y a la place Jean Jaurès, et il y en a toute une série. Donc, effectivement, l'ensemble de la programme de travaux en centre-ville a été fait dans un projet global que l'on a fait en termes d'amélioration de circulation, de places vertes, etc., etc. Mais ça ne voulait pas dire qu'on allait tout réaliser pendant ce mandat. Il faut qu'on garde un peu des choses pour le prochain programme. Donc, et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ce n'est pas programmé, c'est qu'à aucun moment, et vous savez que c'est notre recherche permanente de subventions, à aucun moment on a demandé des subventions pour faire les travaux de la place Sainte-Anne parce qu'elles ne sont pas programmées dans le temps. Là, la priorité des priorités aujourd'hui, après avoir fait... et sécuriser Germaine-Richer, c'est de sécuriser la montée de la glacière qui aujourd'hui est la plus dangereuse. Donc la place Sainte-Anne fait partie des projets qu'on a en tête, mais qui va se programmer au fur et à mesure des années à venir, puisque l'essentiel de nos financements cette année, c'était Marie-Rose, pour 11 millions quand même, le cimetière et certains travaux qui sont tous réalisés d'ailleurs, puisqu'on en a fait plus que prévu. Mais Sainte-Anne, vous n'avez jamais voté des crédits sur Sainte-Anne, puisqu'on n'a même pas les devis. C'est un projet global de centre-ville.
Oui, qui ne remonte même pas à ce mandat-là. Je me rappelle du projet. Je crois que vous avez annoncé c'était les 7 ou 11 projets de Grance. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec la montée de la glacière, parce qu'il me semble que c'était la place Sainte-Anne, c'était lié au trottoir du cours Camille Pelletan. Ça remonte à...
Mais ça fait partie, effectivement, d'une étude globale. Mais ça ne veut pas dire qu'on faisait tout au cours de ce mandat.
D'accord. Donc toujours dans la même direction, on voulait savoir où ça en était ce soir, au sujet de l'évolution de certaines rues de notre commune. Et quand je parle des rues de notre commune, ça concerne la rue de l'Égalité, la rue de l'Enclos et la montée de la glacière. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui avait été décidé il y a 6-7 ans et que...
La
rue de la glacière, la rue de l'égalité.
L'égalité, bon, vous avez vu qu'il y a une maison de retraite, oui, le micro là, il me faut vraiment le truc là, parce que je ne parle comme ça. Donc, la maison de retraite qui fait les travaux. Nous sommes en discussion et nous avons l'accord du département, puisque c'est une route départementale, qui est en train de chercher les financements et on a vu les plans. Il va y avoir une interdiction de tourner à gauche en haut de la rue de l'égalité parce que c'est hyper dangereux, donc ça va être sécurisé. Au printemps, en principe, c'est fait au printemps, mais toute une série de mesures pour sécuriser cette rue, c'est prévu là, mais comme il y a le feu rouge et les travaux de la maison de retraite, on ne va pas en plus en mettre plus haut, mais ça, c'est programmé. Sur la montée de la glacière, vous avez...
monsieur, je vous coupe. Donc, coupe. La rue de l'égalité, ça s'arrête là. Et vous allez juste mettre un interdit de tourner à gauche.
Effectivement, on la met... On a l'étude...
Je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, vous avez fait la réunion...
Tout à fait. Elle devait être mise en sens unique. Mais les études complémentaires ont fait. Si on la met en sens unique, on va charger l'autre côté. Donc, ça va être encore plus dangereux à sortir. Donc, on la laisse. On la sécurise pour pas qu'il y ait la partie dangereuse... C'est de tourner à gauche pour obliger les gens qui vont vers l'Anson de passer par Germaine-Richier avec le rond-point qui est sécurisé. Et les gens qui prendront la rue de l'égalité, disons que la rue de l'égalité, ceux qui partiront sur Miramas prendront la rue de l'égalité, ceux qui partiront sur l'Anson prendront l'avenue Germaine-Richier, puisqu'à la rue de l'égalité, ils ne pourront plus tourner à gauche. Organisé par le département, puisque c'est une route départementale. La rue de l'Enclos, on a commencé à regarder, mais c'est lié. L'ensemble de ces travaux sont liés au lotissement, qui est dans toute la partie haute. Donc quand le lotissement attaquera, on fera toute la partie. Et il y a une prévision de voies piétonnes également, qui est dans les tuyaux et qu'on a commencé à regarder, en sécurisant la venue de la Ouette, en faisant un accès piéton de la Ouette derrière les platanes. Donc tout ça, c'est en cours. Mais pour cela, il faut qu'on fasse aussi les travaux plus bas rue de l'Égalité pour sécuriser la partie de la rue de l'Égalité dans la descente. Voilà.
Donc la rue de
l'Enclos, oui. C'est la rue de l'Enclos qu'on verra quand... Oui, pardon, oui. La rue de l'Enclos quand lotissement, puisque lotissement prend tout le mur de pierre de Champeau. Voilà.
D'accord. Mais concrètement, la rue de l'Enclos, elle va rester comme elle est, juste un aménagement?
Ça, non. En principe, la partie basse devrait être un sens unique. Dans la mesure où, en plus, on aura la maison médicale.
Bien. Et la montée de la glacière?
Et la montée de la glacière, on pensait la mettre en sens unique, mais si on la met en sens unique dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que l'écart, par exemple, si on la mettait en sens unique dans un sens ou dans l'autre, il faudrait que l'écart passe par la rue de l'Enclos, ça serait plus compliqué. Donc on est en train de sécuriser avec un système probablement de feu alternatif, mais il faut d'abord qu'on fasse péter tous les îlots, les fils, les pylônes et tout. C'est les travaux, en principe, de cet été, ça. De cet été, là. Déjà, de lever tous les pylônes et tout pour pouvoir sécuriser parce qu'elle est hyper dangereuse pour les piétons.
Très bien, donc bon, finalement, c'est un peu ce qu'on disait, nous, il y a 4 ou 5 ans, quoi. Quand on disait que la montée de la glacière, finalement, c'était un peu compliqué de la mettre en sens unique, quoi. Bon. Donc c'est très bien, quoi. Bon. Et dernière petite question, bon, c'est, vous en parlez dans votre rapport, à un moment donné, en conclusion, je crois, vous parlez de l'aire de délestage quartier Canebière.
Oui.
Ben, c'est quoi?
Eh bien, l'aire de délestage, comme nous ne souhaitons pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de parking institutionnel, parce que ne souhaitons pas avoir 10 000 personnes à Marie-Rose, oui, donc on reste comme on est là. Mais lorsque l'on fait des manifestations, fêtes votives, je ne sais pas quoi, là, il faut que l'on ait un lieu pour qu'il y ait beaucoup plus de voitures, même si on va mettre en route la navette, etc. Et nous sommes en train, non, nous avons acheté. Nous avons acheté à Canebière déjà une propriété, une maison, qui pourra servir de deuxième gardien. Il y aura un gardien sur le stade et un gardien en bas. Là, on a acheté ça. Et le terrain qui donne sur le CD19, où il y a 7000 m², qui peut nous permettre de mettre 200 voitures sans en faire un parking goudronné, en le laissant herbé, pour ne pas faire du goudron, qui serait le délestage le jour où il y a de grandes fêtes ou des trucs à la
salle. Oui, qu'on ait un lieu pour ce...
Donc, c'est pour ça qu'on dit délestage, parce que je ne veux pas dire parking, parce que ce n'est pas un parking qui sera ouvert en permanence pour amener des bagnoles.
Oui, c'est un cas de manifestation importante, voilà, qu'on ait la possibilité.
Et il ne sera pas goudronné, il restera en herbage.
D'accord. Voilà. Bah, écoutez, voilà, donc c'était les questions qu'on voulait, des explications. Voilà, merci.
Je réponds à toutes vos questions.
Oui.
Parfait. Il y a un vote sur le DOM ? Alors, le vote sur le DOM, ce n'est pas si vous êtes d'accord ou pas sur le DOM. C'est de voter pour considérer qu'on a parlé du DOM. Hein, je précise, ce n'est pas pour ou contre le DOM, c'est on a bien parlé du DOM. Est-ce que l'on a parlé du DOM, qui considère qu'on n'a pas fait de débat sur le DOM, qui s'abstient sur le DOM? Est-ce que je considère qu'à l'unanimité, on considère qu'on a fait le débat d'orientation budgétaire? Oui, merci. Allez. Alors, on a toute une série de demandes de subventions. J'en dis rapidement un mot avant de passer. On n'a pas eu beaucoup de subventions parce qu'on a privilégié sur le foncier des acquisitions de terrain, entre autres. Donc le département nous a demandé de redéposer des subventions pour toute une série de terrains. Donc je laisse la parole à Fabienne qui va vous en donner la liste et les explications dont vous avez besoin.
Donc pour la délibération 3, je vous propose donc d'acquérir en zone naturelle et agricole 32 315 m² pour la somme de 32 315 €, subventionnée, enfin la subvention qu'on demande est de 60%, qui est l'équivalent de 19 389 € et un autofinancement de la commune pour 12 926 €.
Alors ces 32 000, c'est en fait toute une bande le long de la Touloubre, toute une série de parcelles le long de la Touloubre, qui nous permettra donc de continuer ce qu'on a déjà fait, de faire des chemins piétonniers, etc., etc., et d'être propriétaire des berges de la Touloube, puisque je vous rappelle que les berges de la Touloube sont la propriété, enfin la Touloube est la propriété des riverains, ce qui nous permettrait, s'il y avait des choses à faire, d'être chez nous. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, unanimité. Merci. Point 4.
Demande de subvention, donc c'est ce que monsieur le maire tout à l'heure vous parlait au niveau de Canebière, c'est les 7029 mètres carrés.
De délestage.
De délestage, voilà. Donc le coût est de 305 000 euros. Demande de subvention 60%, 183 000 euros au département, avec un autofinancement de la commune de 122 000 euros.
Alors c'est 300 000 euros parce qu'il y a des bâtiments. Hein.
Oui, j'allais le dire, on n'a pas payé 300 000 euros que pour avoir un terrain.
C'est la totalité, c'est le bâtiment.
Je me rappelle qu'on avait voté, il y a un bâtiment.
Il y a un appartement et deux hangars.
Ouais. Après, c'est réglementé, hein. C'est pas non plus...
Oui, c'est un prix des domaines. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition ? Merci, point 5.
Toujours une demande de subvention pour Canebière pour 9 778 mètres carrés, d'une valeur de 12 000 euros, avec une demande de subvention de 7 200 euros au département et un autofinancement communal de 4 800 euros.
Pas de questions ?
Si, s'il vous plaît. Parce que souvent, donc, on a vu dans les délibérations que finalement, c'est des demandes qu'on avait demandées l'année dernière et que finalement, le conseil départemental, ils vous ont répondu que l'année 2018, c'était clos, quoi. Clôture budgétaire 2018.
C'est-à-dire
ils vous donnent pas une date limite, là ?
Eux, ils avaient distribué l'ensemble de leur budget et donc, ils nous ont proposé de redéposer en début d'année... Des dossiers qu'on avait déjà passés en 2018.
On a déposé un peu en fin d'année, ils n'avaient plus de sous dans la ligne budgétaire.
D'accord. Non. Moi, je vous dis ça, bon, parce que je travaille avec le conseil départemental, dans les collèges, on travaille, chaque fois qu'on demande une subvention, ils nous disent tout le temps, bon, mais date limite, c'est ça. Alors, je voulais savoir si vous, les communes, ils vous donnent ça ou vous envoyez quand vous voulez. Quoi.
Non, c'est pour le foncier, c'est particulier.
D'accord.
Pour le foncier, ils ont une ligne arrêtée, et s'il y a eu des domaines d'avant, il n'y en a plus. Donc, je n'ai pas fait voter. Qui est contre, qui s'abstient, c'est bon, merci. Point 6.
Donc, aussi une demande de subvention. Là, c'est pour Beaumajour, 9 144 mètres carrés, d'un coût prévisionnel de 13 716 euros, une subvention du département demandée pour 8 229,60 euros, important, et un autofinancement de la ville de 5 486,40 euros.
On est toujours dans le même prix, hein, pour près de terrain. Question, pas question, unanimité, merci. Point 7.
Demande de subvention, là c'est pour les essaux, 1700 mètres carrés. Donc le coût prévisionnel 1700 euros, une demande de subvention de 1020 euros et un autofinancement de 680 euros.
Question, pas question, vote, merci. Point 8.
Demande de subvention, donc là c'est sur la route de Saint-Chamas, lieu dit Baudimasson. Beaumadisson, je l'ai fait dans l'autre sens. Coût prévisionnel 10 000 euros, demande de subvention 6 000, autofinancement de la commune 4 000.
Pas de questions, vote, merci. Et alors, le bilan de tout ça.
Ça, c'est le bilan 2018. Donc, nous avons acheté 7 029 mètres carrés. 18 772 mètres carrés, 9 778 mètres carrés. Et puis, nous avons cédé 2 290 mètres carrés et 2 379 mètres carrés.
Des questions sur le bilan, c'est la liste.
C'est un bilan annuel de chaque année. Et donc, vous retrouverez les acquisitions qu'on a passé en délibération l'année dernière, mais dont les signatures d'actes vont se faire cette année. Donc, ces acquisitions rentreront dans le bilan 2019.
Sans compter que des fois, il nous faut un an pour que le notaire nous fasse l'acte.
C'est cela.
Ça, c'est notre débat. Pas de questions sur le bilan ? Merci. Et on vote, là ?
Oui.
Bon, alors, OK, pas d'abstention. Merci. Alors... Garantie d'emprunt, les HLM.
Je vous propose donc de faire la garantie d'emprunt à 100% pour les logements sociaux de Ouest-Provence Habitat, les 8 logements qui sont sur le collectif de Loudougan.
Je vous rappelle que c'est un classique parce que les logements tombent dans le domaine de la commune lorsque le délai, je crois, 30 ou 40 ans, je ne sais plus combien c'est. C'est combien ? Il y a un délai, après, il devient une propriété de la commune. Donc, on cautionne, ça ne, et cet emprunt ne rentre pas dans la dette de la commune. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition ? Merci. Défrichement.
Je vous demande donc d'autoriser le maire à déposer une demande d'autorisation de défrichement dans le cadre de l'aménagement du cimetière. Cette autorisation, il fallait qu'on attende qu'on ait le retour pour savoir s'il y avait une étude d'impact à faire. Aujourd'hui, le retour a été fait, donc aujourd'hui, on peut demander cette autorisation de défrichement.
On l'a fait en tant que propriétaire, là. C'est... Tous les propriétaires, d'ailleurs, sont tenus de le faire quand ils sont dans des zones boisées. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition ? Merci. Pascal, parle-nous un peu du contrat enfance-jeunesse. Micro.
Donc la délibération 12 vise l'approbation du contrat enfant-jeunesse que l'on doit renouveler, puisque vous savez que le contrat enfant-jeunesse permet un cofinancement au niveau d'actions qui sont en direction du périscolaire, des jeunes, de l'accueil de loisirs, de la crèche, et ainsi une coordination et une action concerté sur la commune pour donc de 0 à 17 ans, on va dire, enfin de la crèche à 17 ans. Et que donc il s'avère que ce dispositif a été mis en place depuis 2003 et qu'il faut renouveler pour la période 2018-2021.
C'est un renouvellement de contrat. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, renouvelle le contrat, pas d'opposition. Merci. Vous avez tous lu avec intérêt les 70 pages du rapport d'activité 2017 de la métropole sur les diverses activités. Je peux en dire simplement que les budgets deviennent de plus en plus serrés, que néanmoins l'engagement pris par l'ancien président a été confirmé par la nouvelle présidente. Je pense essentiellement du budget, puisque je rappelle que sur nos 10 millions de budget, je fais rond, il y a 5 millions qui viennent d'une dotation de la métropole, que les taxes sur la commune de la métropole baissent, puisque nous étions à 13% et que la moyenne est à 11%. Donc les taxes, les grandes soies payent tous les ans moins, avec l'opération, bon, je ne rentre pas dans le détail, que l'on avait faite en 2016. La dotation est maintenue et nous avons également, pour des travaux de voirie, 1,9 million par an qui sont régulièrement versés et qui ne posent pas question. La problématique de la métropole, elle est très très simple. C'est que les divers budgets jusqu'à maintenant, c'était l'ajout des 6 budgets des 6 intercos et qu'il faut, avec cet ajout de 6 parts, faire avec le même gâteau 7 parts. Parce qu'il y a le budget qui n'est pas compté, qui est le budget des dépenses de métropole, métropolité. En particulier la mobilité et le déplacement, où on est à plusieurs milliards de travaux sur la gare, la liaison avec Aix, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, c'est la grande question. Bon, donc, pour des raisons politiques qu'on comprend à la fois Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal, bon, on ne bouge pas les choses, mais il va y avoir un vrai débat de fond. En 2021, puisqu'il est probable que la fusion département-métropole se fera en 2021, avec un scrutin politique de liste, on part sur l'idée d'un scrutin de liste par sous-préfecture à la proportionnelle. Donc, et là, il y aura un vrai débat sur le financement de la métropole, puisque l'essentiel de la problématique vient que le gouvernement, et le gouvernement Hollande, pour ne pas le citer, qui a créé la métropole, avec la visite de héros, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient venus distribuer des milliards sur ceci, sur cela, il n'y a pas une copec qui est venue. Et que donc, et en plus, il n'y avait rien de délibéré. Donc, et que la discussion aujourd'hui avec le gouvernement actuel, c'est de dire respecter les engagements du gouvernement précédent. Et l'argument qui nous est donné, C'est oui, mais toutes les métropoles distribuent 35% en moyenne dans les communes, vous distribuez 65%, donc vous n'avez qu'à réduire la distribution des communes. À part que nous, je vous l'ai déjà dit, on est un département qui a une intégration intercommunale. Si je prends le SAN, ça fait 45 ans que le SAN était en intercommunalité, fusionné avec plein de trucs en commun, la culture entre autres, on est seul à avoir. Donc ce qui veut dire qu'on a nos budgets, nous, toutes les recettes de ce qu'était la taxe professionnelle à l'époque de Clé-Sud, entre autres, est partie à Ouest-Provence et est partie à la métropole. Donc le retour, c'est normal qu'on ait le retour puisqu'on a, on a transmis. Et ça, ils oublient qu'on a transmis des recettes pour nous dire que le retour est trop jeune. Donc on a ce débat politique important qui se réglera dans le débat politique de la campagne électorale, probablement. Alors, j'avoue que sur la loi NOTRe, vendredi, je vous ai lu une partie de la lettre que j'avais adressée au président de la République il y a un an. Elle est totalement d'actualité, hein, avec la... les discussions avec les corps intermédiaires, avec la ruralité et tout le bazar. Bon, de ce que j'entends et je vois des débats avec les maires, puisqu'il va venir aussi en PACA, la loi NOTRe va être rediscutée et les compétences qui étaient transférées à la métropole de proximité. Aujourd'hui, si on va jusqu'au bout, l'ampoule grillée devant la mairie, c'est la métropole qui va venir la remplacer. Si un égout se bouche, c'est la métropole qui va venir la déboucher. Bon, donc tout ça est à plat. Merci les gilets jaunes, au moins là-dessus. Peut-être qu'on va remettre à plat la loi NOTRe et redéfinir ce qu'est une compétence de ruralité, pour faire simple, et de proximité, pour employer un autre mot, par rapport à ce qui doit être une compétence, les grands enjeux de déplacement, les grands enjeux économiques, etc., qui, eux, devraient être du domaine métropolitain, ce qu'on nous avait promis. Voilà, moi après, bon, on peut rentrer dans le détail, culture, agriculture, forêt, mais je suis plutôt prêt à vous répondre que de vous commenter les 70 pages qu'il y a là, à moins que vous ayez des questions particulières sur le sujet, en vous précisant que je ne suis pas sûr de pouvoir, si vous rentrez dans le pointu de savoir si sur l'agriculture ou pourquoi le truc, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre tout de suite, mais je me renseignerai. Si c'est sur les finances, comme je suis à la commission des finances, je peux vous en dire un peu plus. Sur l'eau et l'assainissement au SONI et sur les travaux aussi. Voilà donc sur ce, disons, débat général, mais que vous entendez toutes les fois qu'on a une réunion de la métropole, les journaux en parlent, en re-reparlent et en re-reparlent. Voilà. Y a-t-il des questions d'ordre?
Oui, une question, enfin une remarque. Bon, j'ai pas tout lu tout le rapport, hein, mais j'ai parcouru quelques chapitres. Alors, à un moment donné, il y a un chapitre qui m'a intéressé. À un moment donné, la métropole parle du développement numérique. Donc, ils ont une démarche, une stratégie, ils veulent faire le territoire intelligent. Et donc, ils parlent de la fibre optique. Oui. Donc, puisqu'à un moment donné, ils disent que... Ben, ils vont, avec les 92 communes, ils veulent faire une couverture complète à échéance de 2022. Donc, qu'en est-il pour Grance, donc de la fibre optique?
Alors, l'accord de la fibre optique, il y a eu un partage. Il y a eu un partage entre les divers opérateurs. Et c'est SFR.
SFR et Orange, là, ils parlent. Donc,
oui, mais...
Nous, communes, c'est SFR.
Nous, c'est SFR qui est chargé de développer la fibre optique. SFR a déjà posé sur Grance 9... Alors, je vous le présente techniquement à ma manière. Hein. Donc, il y a la fibre optique essentiellement qui va venir de Miramas. Il y a un problème de trajet. Et une partie qui est en train d'être tirée. D'ailleurs, pour ceux qui prennent la voie aurélienne, là, vous avez été coincés. Ils sont en train de tirer la fibre optique le long de la voie ferrée pour la Salogne. Et ça va passer jusque chez moi. Donc ça, c'est l'arrivée pour être alimenté par le gros câble, je dirais. Et donc, on arrive sur des gros câbles, sur des postes centraux par quartier. Il y en a 9 dans Grance qui sont déjà posés. Le plus près de chez nous, de la mairie, là, il est posé juste à côté du Dougan, vous voyez. Et à partir de là, on ne m'expliquait pas comment, dont la fibre optique va arriver et les fils de téléphone seront raccordés là-dessus et on pourra avoir la fibre optique. Et l'objectif sur Grance, c'est que la fibre optique soit opérationnelle sur la commune en 2020.
Voilà. Toute la commune, oui. Tout le monde pourra être équipé.
Alors, toute la commune, est-ce que la ferme Tartampion...
Oui, au fin fond,
je ne sais pas, mais bien sûr, oui. Disons 95% de la commune devrait être équipée en 2020, puisque l'important, c'est d'amener la fibre optique sur ces pôles centraux qui récupéreront les téléphones. Je fais simple, je ne sais pas s'il y a des...
Oui, parce que là, je ne comprends pas. On va utiliser les anciens fils téléphoniques électriques pour faire la fibre optique ?
Oui, jusqu'au poste centraux. Alors, on ne me demande pas techniquement comment ça marche. Hein. Mais tout le monde ne va pas avoir un bout de fibre optique qui va arriver chez lui. Hein. Ça sera sur ton téléphone. Donc, à un moment donné, le quartier sera raccordé sur ces pôles, les 9 que l'on a dans Grasse. Techniquement, on ne me demande pas plus.
Voilà. C'était tout, c'était pour être informé à la fibre optique. C'est bon.
C'est bon. Est-ce qu'on doit voter là aussi ?
Oui,
pour voter. Bon, alors il faut qu'on vote qu'on a discuté du rapport d'activité à la métropole qui est... Alors on me dit qu'on a une réunion sur la fibre optique. Alors, mercredi à la mairie, parce que c'est juste en face, on aura la fibre optique mercredi. Donc il y a déjà des bouts de trucs, mais le gros d'alimentation, c'est 2020. Mais 2020, c'est demain matin, hein, on est en 2019. Vote, rapport d'activité, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, ça c'est fait. Demande de subvention au département au titre de travaux de proximité. C'est vrai qu'on discute depuis pas mal de temps sur l'agrandissement du clubhouse du tennis, mais comme les années précédentes, on avait quand même fait pas mal de travaux. C'était pas une des priorités de ce mandat, mais on s'est engagé à le faire en 2020. Donc comme entre les études et tout, il faut toujours un an ou deux. On vous propose de faire une demande de subvention dans le cadre des travaux de proximité pour l'agrandissement du clubhouse de tennis. Et les travaux n'étant réalisés qu'en 2020. Si des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et on est à 75% de lampadaires en LED. On vous propose de terminer la rénovation et d'avoir 100% de LED sur la commune. Et pour cela, je vous propose une demande de subvention au département au titre aussi des travaux de proximité pour terminer les LED dans les derniers chemins que nous avons. Qu'est-ce qu'on a ? On a précisé chemin de formation publique ? C'est pas la bonne. Voilà, vous avez... C'est pas la bonne non plus, on a déjà fait. Donc, concerné chemin des bergers, chemin de la transhumance, chemin des cavaliers, chemin des oliviers, la cour de la mairie et le lotissement, la cerisée qui reste encore aménagée. Il y a des questions ? Pas de questions, des votes contre, des abstentions ? Il n'y en a pas, unanimité. Merci. Les questions diverses, y en a-t-il ? Il n'y en a pas. Les décisions du maire, y a-t-il des questions ? Une fois, deux fois, trois fois. Merci, la séance est levée et à la prochaine.